Voilà, je vous propose du coup de prendre la parole de Dieu et voilà, c'est la suite de la série que nous avons commencée durant le début de l'été avec différentes pauses sur les attributs de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez les derniers sujets, dernières thématiques que nous avons vues? Dieu est immuable, ouais, Dieu ne change pas, c'est un des attributs de Dieu, Dieu qui ne change pas. Dieu tout-puissant, l'omnipotence. Dieu est amour, ouais. Éternel. Il y a la fidélité, c'est vrai, mais on n'en a pas parlé durant cette série. Il y aurait beaucoup de choses à faire, sinon. Actif, ouais, on aurait pu en parler. Je ne sais pas si on en a parlé de ça. Ouais, on sort des sentiers, là. Ouais. Alors, il y a eu aussi l'omniprésence, la présence de Dieu qui transcende, finalement, toute la création. Donc, l'éternité, oui, on l'a dit. Et voilà, il nous reste quelques dimanches avant la fin du mois pour essayer de faire le tour global. On voit bien sûr les attributs les plus importants de Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins importants, mais c'est des attributs qui sont pas considérés comme attributs, mais comme du coup qualité ou voilà. Attribut, c'est vraiment ce qui fait Dieu. Donc bien sûr, tout fait Dieu, mais là on parle d'attributs particuliers à Dieu. Et ce matin, nous allons parler de Dieu, alors c'est un attribut qui n'est pas évident à parler, même à entendre, Dieu qui est juge, le Dieu juste et juge. Est-ce que vous croyez ce matin au jugement divin? C'est pas quelque chose qui fait vendre, hein, en général. Est-ce que vous croyez que Dieu est un juge? En général, on a un peu de mal avec cela. Et dans notre monde, beaucoup de personnes n'y croient pas d'ailleurs. Quand on parle de Dieu et qu'on leur dit que Dieu est un Dieu qui juge, ils ont du mal. Si on leur parle que Dieu est un Dieu qui est leur père, leur ami, leur appui, celui qui les aime malgré leurs faiblesses, leurs folies, malgré leurs péchés, là, leur visage va s'éclairer. Ils vont être intéressés par ce que vous allez raconter. Ils seront contents d'entendre parler de ce Dieu-là. Et c'est pas mauvais, puisque tout cela, c'est vrai. Et Dieu est aussi tout cela. Mais si on leur parle d'un Dieu qui est leur juge, ils vont vous regarder en fronçant les sourcils, s'ils vous apprécient, voire même ne pas vous écouter. C'est une idée de Dieu que l'on n'aime pas. Et pourtant, la Bible en parle tout autant, de ce Dieu qui juge. Plusieurs chrétiens, et on peut nous-mêmes crier à qui veut entendre, ce slogan bon marché, Dieu vous aime. Et on a parlé d'ailleurs dans les attributs de Dieu, Dieu est amour, et on a redéfini ce que c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour comme on l'entend, un amour paillasson, c'est un amour qui englobe tous les attributs, qui englobe sa colère, sa jalousie, sa justice, en fait partie. D'ailleurs, ce Dieu que nous proclamons, quand il reviendra pour faire quoi? Pour juger. C'est son attribut qui sera mis en valeur, souvent on l'oublie, mais quand Dieu reviendra, quand Jésus reviendra, ce jour qu'on appelle le jour de la colère divine, ce n'est pas anodin quand même comme terme que la Bible emploie, c'est le jour où finalement Dieu viendra juger ceux qui n'ont pas mis leur foi en lui. Il viendra juger les morts et les vivants. Et nous, en tant qu'Église, Église avec un grand E, et l'ensemble des chrétiens que nous sommes, nous sommes, que l'on le veuille ou non, influencés par notre monde et par la culture un peu sentimentaliste dans laquelle nous vivons, un peu la thérapie de la tolérance. Et la tolérance, c'est bien, mais la tolérance à tout prix. Tolérance qui va aller avec la pensée positive. Et du coup, on devient de moins en moins à l'aise avec des termes juridiques que la Bible emploie. La justice de Dieu, la justification par la foi, que l'on trouve dans l'épître aux Romains et comme dans tout l'évangile. Et pourtant, la Bible parle de tout autant de ce Dieu qui juge. C'est un terme qui est appliqué à Dieu, qui fait partie de ses attributs, et ce matin, du coup, on va en parler, et j'ai mis comme titre, parce que mettre juste un Dieu juste et juge, j'aurais pu le faire, mais du coup, pour un peu équilibrer, non, parce que Dieu est comme ça, mon titre ce matin, c'est un Dieu juste et miséricordieux. Cela peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. Quand quelqu'un fait preuve de miséricorde, c'est parce qu'il est juste. Et parce qu'il sait aussi bien juger. Et en premier point, du coup, je vous invite à voir, voilà, on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui est juste. Et puis ensuite, voilà, que Dieu doit nécessairement punir le péché. Il doit faire justice. Et puis ensuite, comment comprendre la justice de Dieu et sa miséricorde. Dieu est juste. Plusieurs passages en parlent, il y a dans le psaume, psaume chapitre 11, verset 7. « Car l'Éternel est juste, il aime les actes justes, l'homme droit contemple sa face. » Psaume 75, verset 8, « Dieu est celui qui juge tous les hommes. » Même dans, c'est l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux qui va nous dire ceci, Hébreux chapitre 12, « Vous vous êtes approché de Dieu, celui qui vous juge. » On a du mal, hein. On dit on s'approche de Dieu, celui qui nous aime, celui qui est fidèle, celui qui nous juge. On n'entend pas beaucoup dans les louanges, hein. Moi, je l'entends pas beaucoup. Et puis moi-même, c'est dur de dire cela à Dieu. Et pourtant, si on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire ce Dieu qui juge, on pourrait dire comme tous ces auteurs, proclamer ce Dieu qui est juste et juge. Parce que eux, ils le proclament dans les louanges. Et nous, on le lit comme ça, en fait, on se rend pas compte. Hein. Je pense que c'est surtout ça, notre cerveau, il fait des dénis de réalité. Mais en fait, il loue le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu juges. La Bible nous révèle du coup que Dieu est juste, et cela va se révéler durant toute la Bible. Je vous cite quelques passages, mais il y en a tellement d'ailleurs. Ancien comme Nouveau Testament, au Jardin d'Éden. Le Seigneur va déclarer que l'homme va mourir s'il désobéit à son ordre. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont désobéir Adam et Ève, et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va pas dire c'est pas grave. Il va appliquer la sanction et il va appliquer du coup la justice. Le péché d'Adam va avoir pour conséquence immédiate sa mort spirituelle, et plus tard, quelques années plus tard, sa mort physique. Dieu va être parfaitement juste, il va appliquer la sanction suite à ce qu'il a dit. Il va être fidèle même à sa parole, puisqu'il va les chasser du jardin d'Éden, et plus que cela. En les chassant, il va lier deux malédictions pour l'homme et la femme. Dieu ici est juste juge. Il pose un châtiment. À l'époque de Noé, Dieu va juger le monde corrompu et il va envoyer aussi le déluge pour détruire l'humanité. Parce qu'il est juste. Il va aussi juger Sodome et Gomorre en les faisant disparaître dans un déluge de feu. Il y a aussi la révolte de Corée. Je ne sais pas si vous voyez cet épisode, du coup, dans l'Ancien Testament, où à travers un tremblement de terre, Dieu va faire disparaître Corée et du coup, tous ces hommes qui le suivaient. Plein d'exemples comme cela, où Dieu applique sa justice. Dans le Nouveau Testament, on va le voir aussi, on va voir Ananias et Saphira, dans le livre des Actes, qui vont subir le jugement de Dieu parce qu'ils ont voulu tromper le Saint-Esprit. Dieu est injuste. Injuste. Pas injuste, hein. Il est juste. Donc, et là-dessus, du coup, toute la parole de Dieu nous le montre. Et dans sa justice, Dieu doit punir le péché. C'est nécessaire. Romains chapitre 2 va dire ceci. « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » La Bible, du coup, nous révèle que Dieu, dans sa justice, punit le péché. C'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, et pourtant c'est important. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui va peut-être vous réconcilier à le fait que Dieu juge. Parce que pour nous, même en tant qu'être humain, la justice est importante. Vous êtes d'accord? Allez, je prends un gros exemple. Je voulais prendre l'exemple, et je pourrais le prendre d'ailleurs. Là, cette semaine, il y a un procès qui s'ouvre. Des viols de Mazan. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu cette femme qui s'est fait violer par son compagnon et par plusieurs hommes. Imaginons que le juge, à la fin, dise « Ok, tu as reconnu, vous avez tous reconnu, allez, cette fois, je passe l'éponge. » Est-ce qu'on va dire « Ah, c'est super, il est bienveillant, il est rempli d'amour, ce juge. » On va dire « Non, c'est n'importe quoi. Il n'applique pas la justice, il n'est pas bienveillant, ce juge, il n'est pas amour. » Alors pour nous, être humains, ça nous choque, mais quand Dieu nous juge, ça nous dérange. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes coupables. Et vu que nous sommes coupables, ça nous dérange. Quand ça concerne les autres, c'est moins dérangeant quelque part. Et j'avais pris un autre exemple un peu plus gros avec Adolf Hitler. Si Adolf Hitler n'était pas mort après la Deuxième Guerre mondiale, et que voilà, après un procès de Nuremberg, on le juge, on l'incrimine pour les faits, et que le juge aurait dit « Ok, allez mon coco, c'est parti, allez tu peux rentrer chez toi », il y aurait eu une révolte globale, ça aurait été impossible. C'est la même chose pour nous. Si pour nous déjà être humains, l'injustice nous révolte, pour Dieu, il en est encore mieux. Dieu ne peut pas supporter l'injustice. Déclarer un coupable innocent est profondément injuste et le mal doit être puni. D'ailleurs, c'est dans le livre des Proverbes, hein, que le proverbe va dire que celui qui ne condamne pas le coupable est en abomination devant l'Éternel. et que celui qui finalement punit l'innocent, inversement, est en abomination devant l'Éternel. Le terme est fort. Et ici, si Dieu condamne cela, c'est que lui-même, du coup, applique la justice selon chacun. Du coup, nous devons nous prendre, chrétiens en tout cas, et toute personne que nous sommes, prendre la justice de Dieu très au sérieux. Ne pas penser, Dieu est bon, donc j'ai une excuse pour pécher. Je n'ai rien à craindre, il ne va pas me punir comme je le mérite. Non, Dieu est bon, mais dans sa bonté, il y a sa justice. Ce n'est pas une bonté bon marché. Dans sa bonté, dans son amour, il est question de sa justice. Le péché ici, pour nous, est quelque chose de très grave. La parole de Dieu va dire que c'est une offense contre sa souveraine majesté. Et il ne faut pas penser, du coup, que Dieu n'est pas émotif quand nous péchons, ou bien qu'il regarde ailleurs. Nous devrions nous demander comment Dieu va réagir si je fais telle ou telle chose. Quand nous provoquons quelque part sa colère, quand nous attirons sur nous la pire des punitions. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort valable pour tous les hommes. Alors ça doit peut-être nous rassurer. Peut-être qu'on peut se dire, allez, on est tous ensemble dans le même bateau, mais au final, le chemin c'est le même, c'est la mort. Jésus, du coup, qui est le sauveur du monde, et qui est présenté comme sauveur du monde dans tout le Nouveau Testament, est aussi présenté en tant que juge. C'est dans le livre des Actes, Dieu a fixé un jour où Jésus, où il jugera, le Fils de l'homme jugera celui par celui avec lequel il a été désigné, finalement tous les hommes, selon ce qu'ils auront fait de bien ou de mal. Dans ce monde où l'injustice règne, il est rassurant pour nous chrétiens de savoir que Dieu fera justice. Que les hommes ici-bas peuvent s'échapper à la justice humaine, mais que Dieu jugera chacun. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, c'est ce que Paul va dire. Rien ne lui est caché, et comparé à un homme, un juge dans notre société qui est un homme, Dieu lui a deux choses en plus. Il est tout puissant, il peut tout, et il sait tout. L'omniscience qu'on verra d'ailleurs à la fin du mois. Du coup, dans sa justice, Dieu est parfaitement juste. Il ne peut pas se tromper dans ce qu'il fait, puisqu'il connaît finalement le cœur de chacun. À la fin des temps, d'ailleurs, toutes les injustices seront dévoilées et jugées. Et cette vérité, pour nous chrétiens, elle est réconfortante. Nous avons un Dieu, finalement, à qui appartient la rétribution. C'est Dieu qui va dire. À moi le jugement, à moi la justice, à moi la rétribution. Alors que nous pouvons subir des injustices, nous avons un Dieu qui fera justice à chacun, qui nous fera justice. Dans la parole, il est question de ce jugement à venir, et on pourrait le développer, mais je ne vais pas le faire forcément ce matin, on n'aurait pas le temps, puisque une des sanctions, finalement, de cette justice de Dieu, c'est dans l'éternité. La colère de Dieu à venir dans l'éternité, qui se manifestera dans toute son intensité. La Bible nous avertit de la réalité de cette colère à venir, et Jésus lui-même est celui qui nous en parle le plus. Au jugement dernier, il va dire ceci, « Ceux qui seront maudits seront envoyés dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Et l'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, va dire ceci, « Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Mais notre monde, et des fois nous-mêmes, nous pouvons l'oublier. Et il s'agit pour nous, du coup, de bien savoir qui est ce Dieu. Alors voilà, on vient de dire un peu qui est ce Dieu, juste et juge, mais il est aussi miséricordieux, et c'est important de pouvoir le lier, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est cette justice. Deutéronome chapitre 32 va dire ceci, « Il est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice, il est juste et droit. » Dans la parole, bien souvent, quand il est présenté ce Dieu juste et juge, il est présenté aussi ce Dieu miséricordieux, parce que ça va ensemble. Et quelqu'un qui est juste, qui est juge, doit faire preuve finalement de bienveillance. Et Dieu est comme cela, de par sa nature, pas parce qu'il le veut, de par sa nature. La Bible nous révèle que Dieu est amour, mais cela n'enlève rien à sa justice. Et les deux s'harmonisent parfaitement, sans qu'il n'y ait aucune contradiction. Il punit quelque part ceux qui le rejettent et la compassion de ceux qui se réfugient en lui. C'est ça l'évangile. Dans son alliance, les deux existent ensemble sans opposition. Pourquoi sa colère est sévère et pourquoi la colère de Dieu est sévère? C'est justement parce que sa bonté a été méprisée et rejetée délibérément. C'est pour cela, quelque part ici, que sa colère est sévère. Parce que Dieu nous aime de manière inimaginable, que ceux qui le rejettent sont livrés à la colère de Dieu. Très souvent, il nous arrive d'opposer ces deux caractéristiques de Dieu. En pensant, si Dieu est amour, alors nous n'acceptons pas qu'il puisse être en colère contre des pécheurs, contre nous-mêmes, ni qu'il puisse exercer sa justice en punissant les péchés. Mais ça, c'est une mauvaise manière de penser. Pourquoi ? Parce que si Dieu n'a pas le droit de punir les péchés, il n'est pas non plus en mesure de faire grâce. Parce que ça voudrait dire que si Dieu laisse passer l'injustice, cela veut dire que le péché n'est pas si grave que cela. Et que le péché ne lui porte pas atteinte. L'homme, du coup, et les hommes que nous sommes, nous aurions le droit de faire ce qu'il nous arrange, ce que nous voulons. Et le pardon et la grâce ne signifieraient rien. Elles n'auraient aucun sens, puisque Dieu laisserait faire. Mais le pardon et la grâce de Dieu ont leur importance parce qu'il y a l'offense du péché. Parce que Dieu est offensé par le péché, qui est une abomination à ses yeux, Dieu demande justice. Parce qu'il ne veut pas laisser quelque chose qui l'offense, il ne peut pas laisser passer. Parce que c'est grave, c'est contre sa nature. Et c'est dans ce cadre de la grâce que finalement le pardon sont valables. Que la grâce et le pardon sont valables. Parce que Dieu est juste. Si dans votre vie, vous avez, vous faites du mal à quelqu'un et que vous dites c'est pas grave, la personne qui vous a fait du mal, elle va considérer que c'était, effectivement c'est pas très grave. Et du coup, vous pouvez penser ce que vous voulez, bah, vous avez dit que c'est pas grave, donc c'est pas grave, donc il n'y a rien eu, il n'y a pas d'offense, il n'y a rien. Pour Dieu, c'est la même chose. Il faut considérer qu'il y ait offense pour qu'il y ait la grâce et le pardon et la miséricorde de Dieu qui s'établissent. Notre misère ici est grande, parce que pour tous les hommes, le salaire de l'offense vis-à-vis de Dieu, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la Bible va dire en disant que tous sont pécheurs, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché, tous sont éloignés de Dieu. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Paul va insister lourdement. Et là, j'arrive du coup sur ce dernier point, du coup que Jésus a subi la punition que nous méritions. Notre misère est tellement grande, elle est si grande que même Jésus, sur la croix, a été écrasé par le poids de la colère de Dieu. Le plus misérable d'entre nous, d'entre tous, finalement ce n'est pas nous, c'est Jésus pendu sur la croix, crucifié sur la croix. Rejeté par Dieu, rejeté par les hommes bien sûr, mais surtout rejeté par Dieu. Tourmenté par la terrible souffrance du rejet divin. Dans la croix, ce qui est le plus dur, ce n'est pas la souffrance physique. Des crucifiés, il y en a eu plein dans l'histoire. Le plus dur, c'est que Dieu, dans la personne de Jésus-Christ innocent, finalement paye pour la rançon de tous les autres que nous sommes. Et que Dieu, la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Parce qu'il fallait que la sanction s'applique. Il fallait que Dieu est juste, il est juge. Il fallait que, du coup, la sanction, le châtiment s'applique. La différence, c'est que c'est juste Jésus qui a pris cette place. Ce que nous méritions à cause de nos péchés, la justice de Dieu, finalement, ici, a pu l'accomplir. Et la colère de Dieu, finalement, ne s'est pas déversée sur nous, mais s'est déversée sur le Christ. Dans son immense miséricorde, Dieu a placé son Fils Jésus entre sa colère et nous, pour que la colère que nous méritions retombe sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, ce n'est pas que la colère de Dieu s'est effacée. La colère de Dieu est toujours là. Mais quand Dieu nous voit, il voit Jésus à travers. Mais rien n'est effacé. Le châtiment a été appliqué. Et pas pour tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Mais pour appliquer cette sanction, il faut encore que les pécheurs que nous sommes, nous l'acceptions. Puisque Dieu ne laisse pas finalement les hommes, il ne force pas la main des hommes. Il a déjà tout donné, et il attend finalement que chacun, quelque part ici, fasse le choix de lui faire confiance, de dire « Seigneur, j'accepte cette sanction que tu as prise parce que tu as payé pour moi. » Celui qui accepte cela, c'est la grâce et la miséricorde qui s'appliquent dans sa vie. Celui qui ne l'accepte pas, c'est la colère qui repose sur lui. Comment Dieu a montré sa justice? En punissant son fils à notre place et en lui infligeant la pire des punitions. Ésaïe 53, vous connaissez ce passage. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment, un Dieu juste là, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Mon serviteur juste, c'est question du Christ ici, justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Pour vraiment goûter au réconfort que procure l'appartenance à Jésus-Christ, nous devons absolument reconnaître que nous méritons la terrible colère de Dieu dans cette vie et dans l'éternité. C'est ce qu'on appelle la repentance. Celui qui ne se repent pas ne peut pas connaître finalement la grâce de Dieu. Dieu est juste, c'est nous qui sommes injustes. Et la bonne nouvelle, la nouvelle merveilleuse et glorieuse, c'est que Jésus est mort pour tous ceux qui croiraient en lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a pris notre place et en lui, la justice de Dieu est pleinement satisfaite. Dieu est satisfait puisque son Fils parfait, Dieu qui est parfait, s'est offert lui-même pour nous. Sa justice ici et sa miséricorde s'embrassent. Les deux ne sont pas en opposition, elles sont en cohésion, elles vont ensemble. Elles s'accordent de façon harmonieuse. Et quand nous reconnaissons que Dieu aurait parfaitement raison de nous envoyer en enfer, c'est alors que nous pouvons vraiment nous réjouir d'appartenir à Jésus-Christ. Celui qui ne reconnaît pas finalement qu'il ne mérite l'enfer, c'est qu'il n'a pas conscience qu'il mérite la mort. Sa bonté ici, du coup, se renouvelle chaque matin pour tous ceux qui se réfugient en lui. Nous, on aime le début de ce verset. Sa bonté se renouvelle chaque matin, mais ce n'est pas pour tout le monde, pour ceux qui se réfugient en lui. Alors pour conclure, Dieu est juste. Et parce qu'il est juste, il est juge. Mais ce juge, ce n'est pas un juge sur lequel nous devons avoir peur parce qu'il est juste, justement. Et cette justice, du coup, s'intègre dans son amour, s'intègre dans sa bonté, s'intègre dans sa colère, dans sa jalousie, dans sa fidélité, dans sa toute-puissance, dans sa toute-science. Et la justice et la miséricorde sont mentionnées ici très souvent dans l'ensemble de l'Écriture. Car ils se complètent mutuellement. Sans miséricorde, sans la grâce, la justice serait dure. Et tous les hommes seraient perdus. Mais sans justice, l'injustice grandirait. Ainsi que le péché et l'univers sombreraient dans l'anarchie. Sans justice, il n'y a rien qui tient. Mais dans sa miséricorde, Dieu a pitié du pécheur. Dans sa justice, il ne le sauve qu'en le débarrassant du péché. Et la Bible ici n'oppose jamais cette justice de Dieu et l'amour de Dieu. Lorsque Dieu exécute sa justice, il accomplit en même temps son salut, ce salut qu'il offre à tous les hommes. Parce que nous sommes pécheurs, la colère de Dieu repose sur nous tous. Mais parce que Dieu est juste, il demande une sanction comme réponse à nos fautes. Et comme je le disais, ce châtiment, le châtiment du péché, c'est la mort de tout pécheur. Mais dans son amour, Jésus a pris notre place et a subi la punition qui nous revenait, la mort. La colère de Dieu qui était sur nous est retombée sur lui et la justice de Dieu s'est appliquée. Et quiconque, du coup, aujourd'hui place sa confiance en Jésus, Dieu le voit et Dieu nous voit au travers lui. C'est tout le message de l'Évangile. Et quand nous parlons du coup de la justice de Dieu, finalement, c'est de pouvoir comprendre tout cela. Ça va ? Pour conclure, je vous lis un psaume, c'est encore une louange ici, alors j'ai pas regardé qui l'écrivait, si c'était Asaph ou David. Une louange qui proclame ce Dieu juste et ce Dieu qui juge. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, avec équité, et les peuples avec droiture. Pouvons ce matin proclamer, louer Dieu pour sa justice, comme finalement tous les psalmistes, comme aussi tous les apôtres, toutes ces personnes finalement qui ont compris pourquoi ils louent Dieu, parce qu'ils ont compris qu'ils méritaient la mort et que Dieu, ici à appliquer sa juste justice. Dans sa miséricorde, il reste fidèle. Et du coup, il ne se débarrasse pas du péché en disant « ce n'est pas grave ». Non, il applique sa justice pour que nous bénéficions de sa grâce. Amen.